Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de folie. Au sommaire aujourd'hui, des éliminatoires incompréhensibles, des Coupes du Monde dans plusieurs pays avec toujours plus de nations. La Coupe du Monde de foot a-t-elle perdu de sa magie? Nous ouvrons le débat et ce sera la une des GG dans quelques instants. Oscar Jégou et Hugo Radou sont désormais sélectionnables en équipe de France après le non-lieu de la justice argentine. Avez-vous envie de les revoir? Avec le 15 de France, ce sera le bras de fer à 10h et ce sera un excellent 2 contre 2. Et puis 11h, la sensation Brest en Ligue des Champions, qualifiée à minima pour les barrages. Une question se pose, où jouer les éliminatoires? Les Brestois doivent-ils aller au Stade de France? Nous nous poserons la question. Avec le Père Noël évidemment dans cette émission en ce mois de décembre, mais ça je vous explique tout ça dans quelques instants. Mais je vais vous présenter tout d'abord les grandes gueules du sport réunies dans le studio RMC ce matin. Une grande gueule qui, comme François Bayrou, il va devoir attendre ses 70 ans pour avoir un poste important. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Qu'est-ce que je pourrais faire moi à 70 ans?
C'est dans 10 ans surtout.
Mais j'aimerais bien être le patron de Denis pour l'obliger à bosser.
C'est important ça,
mais ça, ça serait super difficile. Oui. Le faire bosser.
C'est pas un poste important, mais c'est un poste extrêmement compliqué, tu as raison, salut mon cher Christophe. Une grande gueule qui, comme François Barrou, il a du mal à savoir dans quel camp il est. Denis Charvet, salut Denis.
Salut Christophe. Dans 10 ans, je sais où tout sera, toi.
Allez, pas ouais.
Et toi?
Avec toi.
Moi, je suis en grande forme. J'ai un nouveau cœur, j'ai de nouvelles artères.
Non, mais en préparant cette émission, c'est vrai que je t'ai trouvé un sacré point commun avec François Bayrou. C'est-à-dire que t'oscilles entre le oui, non, entre le non, entre le gauche, entre la droite.
J'ai toujours été à droite.
Alors, moi, je lui ai trouvé un point commun.
T'as vu quand tu me regardes quand je te dis ça?
Je lui ai trouvé un point commun. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous avons des boules à notre effigie pour le jeu de Noël. Et Denis Charvet ressemble étrangement à un ancien présentateur de M6 qui s'appelle Laurent Boyer.
C'est mon pote, tu arrêtes.
Mais c'est ton portrait écraché surtout.
Bon, je me lève.
Reste avec nous. Non, ne commence pas à taper Christophe Cessieux, c'est juste le début d'émission. Ça promet, hein, ce matin, vraiment restez avec nous, vous allez vous régaler. Enfin, j'espère. Une grande gueule qui, comme François Bayrou, c'est la preuve qu'il faut toujours y croire. Pascal Duprat, salut Pascal.
Salut Jean-Christophe, salut les amis.
Pascal,
comment ça va?
Quel dommage que tu ne sois pas là, parce qu'il faut, se le faire, le Christophe.
Ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais même loin de lui, je vais réussir à me le faire
quand même.
Et vous allez m'aider en plus.
Ah oui, oui.
Avec grand plaisir. Tu sais qu'on est toujours partant pour ce genre de mission. Et puis une grande gueule qui, contrairement à François Bayrou, à chaque fois qu'il va à Pau, il se fait insulter. Fred Weiss. Salut Fred.
Salut. C'est tellement vrai.
Toi, le Limougeau, ouais. T'as pas le droit d'aller à Pau.
Alors maintenant, ça va un petit peu mieux, mais c'est il a fallu beaucoup d'eau qui coule sous les ponts.
Il faut dire que tu balançais quand même sur Pau. Hein.
Bah bien sûr.
Ah, t'as beaucoup balancé sur Pau.
C'est logique. Détestait vraiment. Hein. Ouais. C'était pas de façade.
Mais ça t'est arrivé de partir en vacances à Pau ou pas?
Mais on peut personne part en vacances à Pau.
Ah si.
C'est une jolie ville.
Très jolie. Très beau.
Non, c'est beau.
Au pied des Pyrénées, tu peux aller faire du ski.
Magnifique.
Je suis déjà énervé.
C'est-à-dire qu'il y a plus de choses à faire à Pau qu'à Limoges quand même. C'est pas pour dire.
Mais du basket à Limoges.
Mais si t'aimes pas le basket, tu vas où à Limoges?
C'est vrai. Bref. Ça va être bon ce matin. Alors tu parlais du sapin de Noël, tu as raison,
mais
Christophe,
oui.
Parce que jusqu'à Noël sur RMC, on vous couvre de cadeaux.
Le grand Noël RMC.
Une PS5 Pro, un iPhone 16, 10 000 euros, beaucoup de cadeaux sont à gagner sur RMC. Vous vous inscrivez tout de suite, vous envoyez Noël au 732-16, Noël au 732-16, devant moi. Juste à côté de moi, j'ai donc ce sapin avec 5 boules. Une à notre effigie, une chacun. Il y a une boule Fred Weiss, une boule Christophe Cessieux, Denis Charvet, Pascal Duprat. Eh bien, ce sera à vous de décider quelle boule avez-vous envie d'ouvrir avec un magnifique cadeau à l'intérieur. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Vous envoyez donc Noël au 732-16 et je vous promets que vous allez être gâtés sur RMC pour ces fêtes de Noël. Allez, on débute cette émission avec cette citation d'un poète grec qui s'appelle Zénébios, qui a dit un jour...
Ah, il est né où ?
On est bien.
Il est né où celui-là?
Bah en Grèce, j'imagine.
Où
en Grèce?
Mais oui, je sais pas. C'est plutôt un Athénien, Spartiate, un Corinthien.
C'est la Grèce du Sud. Il a dit autant de pays, autant de mœurs.
La une des grandes gueules du sport.
Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France.
Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau.
Ah, ça c'est génial ça.
Le mondial de football 2034 se déroulera en Arabie Saoudite et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Quelle horreur! Choisissez un autre sport.
Deux, trois pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contre-pied parfait! Et le but!
Bonheur. 11 stades seront construits, des centaines d'hôtels vont sortir de terre, souvent au milieu de nulle part, tout cela financé par l'argent du pétrole, une aberration écologique.
Mais c'est un fake.
Mbappé qui s'élance.
Oui.
Le Conseil de la FIFA a décidé à l'unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du Monde. L'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay organiseront chacun un match.
C'est invraisemblable. Invraisemblable.
L'équipe de France de foot connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Enfin, quasiment, ce sera soit le groupe D avec l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan, ou le groupe L avec la République tchèque, le Monténégro, les îles Féroé et Gibraltar. Tout dépend du quart de finale de la Ligue des Nations entre la France et la Croatie. En cas de victoire, ce sera le groupe D. En cas de défaite, dans cette double confrontation, ce sera le groupe L. Est-ce que j'ai encore tout le monde? Oui, les auditeurs, vous êtes avec moi. En tout cas, même Didier Deschamps est perdu.
C'est compliqué pour beaucoup de monde de comprendre, plus il y a les restrictions qu'il y a qui amènent à décaler. Bon, mais il y a toujours eu plus ou moins de restrictions, mais là, avec ces 6 groupes de 4 et ces 6 groupes de 5, forcément, ça amène un peu plus de moins de visibilité par rapport à ce qu'il y a eu avant. Mais bon, le maître mot, vous le connaissez, c'est s'adapter, donc on s'adaptera.
On s'adaptera. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, les Bleus sont assurés de disputer les barrages de la Coupe du Monde, même en cas de fiasco dans ces éliminatoires. Une Coupe du Monde qui aura lieu en Amérique, dans 3 pays, vous le savez, et ce sera encore le cas en 2030, avec un mondial organisé en Espagne, au Portugal et au Maroc. Oui, encore une Coupe du Monde éparpillée avec 48 nations. Alors la musique qui fout les jetons, et cette question. La Coupe du Monde a-t-elle perdu de sa magie? Oui ou non? Denis Charvet?
Non.
Christophe Cessieux?
Bien sûr que oui.
Pascal Duprat.
N'importe quoi, Christophe Cessieux. Non, bien sûr que non.
Fred Weiss.
Non.
Ok, avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
C'est vrai, je le disais, on va voir du pays pour les prochaines Coupes du Monde.
Oui, du jamais vu pour un mondial. 3 continents, 6 pays, voici le programme de la Coupe du Monde 2030. Après les 3 premières rencontres en Uruguay, au Paraguay et en Argentine, le reste des matchs se déroulera à 9000 km de là, au Maroc, en Espagne et au Portugal. La FIFA a une nouvelle fois mis de côté les considérations écologiques pour ce tournoi. Et pour choisir ces pays, pas de vote, mais seulement Gianni Infantino en visio avec les présidents de fédération qui ont choisi par acclamation devant leur ordinateur. Mais l'attribution qui cristallise les tension reste celle de 2034. L'Arabie Saoudite sera le premier pays à accueillir le mondial à 48 équipes sur un seul et même territoire. L'obtention de cette Coupe du Monde est une consécration pour les dirigeants saoudiens. Seulement 2 ans après l'événement au Qatar, le projet financé par les pétrodollars est totalement dingue. 15 stades dans 5 villes, 72 camps de base et plus de 200 000 chambres d'hôtel au nord du pays. Tenez-vous bien, dans la ville de Neom, suspendue à 350 mètres au-dessus d'une marina, un stade futuriste accueillera 46 000 spectateurs. Le toit de cette enceinte sera recouvert par des immeubles d'une nouvelle ville créée pour l'occasion. Ce lieu s'intègre dans le projet futuriste The Line et à côté, on nous dit... À côté, le mondial au Qatar, c'était un hôtel 4 étoiles. Là, on parle d'un palace, nous explique un employé de la FIFA. Et comme pour le Qatar en 2022, l'Arabie Saoudite va devoir soigner son image, s'ouvrir au monde et surtout affronter les critiques. Plusieurs ONG expriment déjà leur vive préoccupation concernant les droits humains dans le pays.
Merci beaucoup Nicolas Pelletier pour ces précisions. Je précise que tu es à Paris actuellement à l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football pour les élections à cette même présidence. Évidemment, on te retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission. La Coupe du Monde a-t-elle perdu sa magie? A-t-elle perdu de sa magie? C'est notre question, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais commencer avec Pascal qui nous dit oui. Bien sûr que non. Pourquoi non, Pascal?
parce que la Coupe du Monde sera toujours un événement majeur, au même titre que les Jeux Olympiques. Et c'est pas parce qu'on visite plus de pays ou beaucoup de pays à l'intérieur même d'une Coupe du Monde qu'il y a davantage d'équipes au départ, pendant les phases éliminatoires, que tout d'un coup la Coupe du Monde va perdre de sa magie. On ne fait que critiquer le football. On ne fait que critiquer les instances.
Ça, c'est, mais ça, en tout cas, toi, tu les critiques jamais. Moi, t'es bien corporate. Ça, c'est sûr, Pascal.
Ben, tu vois, ça mal m'en prend, puisque je bosse pas. Donc, je fais, mais, tu vois, oui, mais je ne tire pas les pompes, mon ami.
De les garder dans le sens du poil. Non, mais Christophe,
s'il te plaît. La Coupe du Monde, prends la prochaine. Moi, je te pose une question, Christophe. Je compte sur ta sincérité pour me répondre. Si RMC te dit tu vas à la Coupe du Monde en Amérique, au Canada, aux États-Unis et au Mexique, tu y vas pas, tu y cours pas pour aller la commenter. Dis-moi la vérité.
Si j'avais le choix.
Dis-moi la vérité.
Pascal, dans cette maison, tu peux pas faire toutes les Coupes du Monde. Mais si j'ai le choix entre aller faire la Coupe du Monde de rugby en Australie et la Coupe du Monde de foot au Mexique, je vais en Australie.
Voilà. Mais tu vas en Australie, mais pour l'instant, la prochaine Coupe du Monde, elle est aux Amériques.
Non, c'est pas parce que j'aime pas le foot. C'est
aucun rapport.
J'aime pas ce qu'est devenu le foot. Est-ce que je vois le foot aujourd'hui, et ce monsieur Infantino, et cette Arabie Saoudite, et le Qatar, et tous ces pays.
Mais alors qu'est-ce que tu fais? Tu l'arrêtes la Coupe du Monde alors? T'en fais plus.
Pays, 48 pays, on a l'impression que cette phase finale, il va y avoir les éliminatoires, comme on faisait avant, et la phase finale en même temps. Ça va durer 39 jours. Il va y avoir 105 matchs.
Le rugby, ça
mais même, alors je sais que toi, peut-être, t'es en train de préparer ton avenir dans ton EHPAD, et tu sais que à cette époque-là, tu regarderas les matchs. Donc tu vas en regarder 105 et tu seras
convaincu. Agressivité,
tu donneras la main à Pascal et ensuite vous irez au réfectoire.
Agressivité.
Hein, oui. Mais franchement, la magie de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'était l'élite, c'était les meilleures nations qui s'affrontaient. Mais c'était des éliminatoires.
Ça sera toujours la même chose.
C'était des éliminatoires où tu avais un véritable suspense. Moi, je me rappelle des France-Bulgarie qui n'ont pas toujours tourné à l'avantage des Français. Mais 93, le France-Ukraine. Mais t'as vu contre qui on va jouer là?
Des surprises.
Gibraltar, les îles Féroé.
Excuse-moi, l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine à la Coupe du Monde. À la dernière Coupe du Monde.
La qualification à l'équipe de France sans jouer, ce sera plus simple.
Dis-moi, l'Argentine, elle a failli passer à la trapinette. Si l'Arabie Saoudite a battu l'Argentine, c'était pas prévu ça. T'aurais jamais misé un centime sur la victoire de l'Arabie Saoudite.
Donc si tu veux, tu parles de la dernière Coupe du Monde.
Oui, dernière Coupe du Monde.
Non, mais la dernière Coupe du Monde, elle était encore dans un format acceptable.
Mais il y aura toujours des surprises.
Combien de fois t'ai-je entendu critiquer la Coupe du Monde au Qatar? Combien de fois l'as-tu critiqué? Qu'est-ce que t'as reproché à cette Coupe du Monde?
Évidemment, parce que moi je trouve pas normal qu'on dispute des Coupes du Monde en plein hiver, qui faussent le résultat des championnats dans les autres pays, mais ça t'en a rien à faire. Le football qui bat, tu t'en fiches.
Donnez-lui des vacances.
Il est 9h25, j'ai déjà mal à la tête. Donc si moi j'ai mal à la tête, j'imagine les auditeurs.
Jean-Christophe, je peux finir?
Oui, tu peux finir. Juste essayez de vous écouter, parce que sinon ça va être très compliqué, c'est un débat passionnant. Pascal Duprat.
On se croirait à l'Assemblée nationale, franchement. Christophe, tu peux nous laisser parler, s'il te plaît. Ok. Tu peux faire preuve de mansuétude.
Allez, les arguments.
Tes collègues.
Vas-y, mon Pascal.
Mes arguments, c'est toi qui les as avancés en disant les éliminatoires sont inintéressants. La dernière fois que des éliminatoires de la Coupe du Monde ont été intéressants, c'était quand, Jean-Christophe? C'est pas intéressant parce que la France, depuis la dernière fois qu'elle n'a pas fait la Coupe du Monde, c'était en 94. En fait, vous êtes tellement gavés par les résultats de l'équipe de France qu'il faut toujours matraquer le foot.
Incroyable face à l'Ukraine en barrage, quand même,
Christophe,
Pascal.
Christophe, franchement, qu'est-ce que ça enlève? Ça enlève à la magie de la Coupe du Monde que d'avoir quelques équipes en plus qui disputent des éliminatoires? Pourquoi ne pas donner la chance à de petits pays de vivre une possible qualification à la Coupe du Monde? Qu'est-ce que ça enlève à la magie? Ça n'enlève rien à la magie.
La phase finale,
s'il te plaît.
La phase finale. Mais je suis d'accord avec toi, Pascal. Organisons tout au long de l'année une Coupe du monde permanente où l'Azerbaïdjan jouerait contre le San Marin. Le lendemain, tu aurais un match entre Gibraltar et Monaco et tu fais un championnat et tu vas te régaler. Et là, ce sera magique.
Christophe, tu vas avoir les éliminatoires de cette Coupe du Monde.
Ça, c'est une chose. On en a parlé tout à l'heure. Je te parle de la phase finale avec 48 équipes. 48 équipes.
Ça veut dire que tu salives pas une phase finale.
Oui, mais pour obtenir la qualification pour la phase finale, c'était avant un moment super difficile. C'était un vrai championnat en soi. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on fait jouer des équipes qui ont un niveau de CFA pour obtenir une place en Coupe du Monde. Si vous trouvez ça magique, bah, tant mieux pour vous, les gars. Moi, je ne trouve pas ça magique. Je suis désolé.
Par rapport à ces arguments-là, moi, je trouve que la magie, c'est quand il y a des matchs couperets. Et quand il y a 48 équipes, le match couperet, il commence en 16e. Donc, forcément, il y a de la magie.
Tu vas avoir les oppositions de
Il va y avoir des oppositions dans les poules. Ok. Je suis d'accord avec toi qu'elles risquent d'être faibles. Mais tu vas avoir un match couperet dès le 16e. C'est-à-dire que directement, tout le monde, t'auras un intérêt à suivre. Pourquoi? Parce que tu peux te faire passer à la trappe directement. Moi, je comprends pas cet argument aussi.
Mais en plus, plusieurs pays.
C'est quoi le problème de plusieurs pays? Quand t'es dans ton canapé, quand t'écoutes la radio ou que tu regardes la télé, qu'est-ce que tu t'en fous que ce soit dans 50 pays s'il faut? Alors oui, il y a des
considérations. Parce que t'as jamais suivi l'équipe de France.
Si tu suis
les gens qui suivent l'équipe de France, ils vont partir à droite, à gauche.
Quel est le problème?
La jeunesse.
Quand bien même tu es supporter,
tu es chez toi, tu regardes les matchs de la même manière.
L'empreinte carbone, t'as jamais entendu parler, l'empreinte carbone. Mais ça, on a l'impression que le foot, ça ne les intéresse pas.
Ça te plaît pas quand ça joue au Qatar. Ça joue au Qatar parce que c'est un pays qui a beaucoup d'argent et c'est au même endroit. Mais ça te plaît pas quand c'est distribué dans plusieurs pays parce qu'il n'y a pas l'argent.
Alors, c'est pas les mêmes raisons, Fred. Tu connais le Qatar, tu as été déjà, tu sais comment ça, tu connais la politique du Qatar. C'est une véritable démocratie. Je sais que t'es un féru de démocratie. Va là-bas. Va bosser en travailleur au Qatar.
Je suis d'accord avec toi. Le Qatar, admettons que, effectivement, ce ne soit pas une démocratie, que, en termes d'écologie, ça
Et l'Arabie Saoudite, c'est encore
mieux.
Est-ce qu'elle a fonctionné la Coupe du Monde au Qatar? La vraie question, est-ce qu'elle a fonctionné la Coupe du Monde au Qatar?
Oui, elle a plutôt pas mal marché.
Donc c'est de la magie, existe toujours.
Ça a été un succès incroyable.
Ok, je reprends la main. Vous avez bien remarqué quand même que Denis Charvet est resté tranquille dans son coin. Il va pouvoir intervenir dans ce débat. Écoutez-vous, les copains, la Coupe du Monde a-t-elle perdu de sa magie? Vous composez le 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Nous allons parler de l'équipe de France de hand féminin qui s'est inclinée hier en demi-finale face au Danemark. C'est l'Euro de hand. Il y aura le match pour la troisième place dimanche face à la Hongrie. Sachez également que actuellement à Val d'Isère se dispute la première manche du slalom géant avec Alexis Pinturo qui va partir dans quelques minutes. On retrouvera Léna Marjac et Sébastien Amier Bastoun en direct de Val d'Isère dans quelques instants. Mais restons sur notre débat. La Coupe du Monde a-t-elle perdu de sa magie après l'attribution cette semaine pour la Coupe du Monde 2030 dans 3 pays, même 6 pays, parce qu'il y aura aussi un petit peu de matchs en Amérique du Sud. Et puis l'attribution de cette Coupe du Monde en 2034 par l'Arabie Saoudite. Une Coupe du Monde à chaque fois avec 48 nations. La Coupe du Monde a-t-elle perdu de sa magie? C'est notre question. On est redescendu tranquillement en température et on va pouvoir s'écouter tranquillement. Denis Charvet, tu n'avais pas parlé encore. Pourquoi non? Pourquoi ça n'a pas perdu de sa magie?
D'abord, il faut regarder la dernière Coupe du Monde, je pense au Qatar, où cette Coupe du Monde a été la plus décriée de l'histoire de la Coupe du Monde. On connaît toutes les raisons, évidemment, c'est pas les mêmes raisons peut-être que les futures Coupes du Monde, mais en tout cas, à l'arrivée, personne ne pensait que ce serait un succès. C'est un succès incroyable, puisque les audiences ont été incroyables, tout a été fait pour que ça marche.
Peut-être la plus grande finale de l'histoire.
Et puis là où je ne suis pas d'accord avec Christophe, c'est que tu tournes un pays où il y a d'énormes difficultés, on les connaît, et au moins ça prouve que le monde entier peut voir que ces pays-là vont faire marche arrière sur certaines.
Bien sûr.
Donc,
parce que tu les pointes, toutes les caméras sont sur eux, donc si elles ont pas l'habitude de respecter, c'est vrai, les droits de l'homme, eh bien le fait d'être chez eux et de les mettre en lumière,
grâce au foot, la démocratie est aujourd'hui en vigueur au Qatar. Merci, bravo messieurs.
Pas démocratie, mais en tout cas d'autres pays.
Mais d'autres compétitions où il n'y a pas de démocratie.
Et par rapport à la magie, moi je suis d'accord qu'il y a trop d'équipes, ça c'est certain. Mais bon, après moi j'aurais mis moins d'équipes, la formule.
Le format à 32,
voilà, le format à 32, c'était super. Mais bon, après, je crois que d'aller jouer la Coupe du Monde en Espagne, Portugal et Maroc, ça sera un succès incroyable. Je ne crois pas que ce soit un problème de distance. Les ambiances ne seront pas dans tous les stades, dans tous les pays. Et puis à l'arrivée, il y aura des des grands matchs. Et puis, comme le disait Fred, en 16e de finale, tu raderas les matchs.
Ce que veut vous dire Christophe, c'est aussi, c'est un tout. Alors oui, vous me parlez, et Fred le disait, je vais te redonner la main. Tu disais, mais ça fait quoi pour ceux qui sont devant leur télé que le match se dispute en Espagne, au Maroc, c'est le même match. Tu as raison. Sauf que l'unité de lieu faisait beaucoup dans une Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on l'a vu au Qatar, parce que c'était extrêmement rapproché dans ce petit pays. Il y a l'unité de lieu, il y a le nombre d'équipes. Tu vas disputer 3 matchs en Amérique du Sud avec le décalage horaire et tout ça. Est-ce qu'il y a un moment donné, ça devient encore compréhensible tout ça?
Alors c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile de comprendre. J'ai essayé de regarder. Et Didier Deschamps l'a expliqué lui aussi. C'est un peu compliqué de le comprendre. Mais par rapport à l'unité de lieu, je vous rejoins pas du tout. Encore une fois, il faut penser à un supporter qui est chez lui, qui écoute la radio, qui regarde la télé et en quoi.
Non mais ça veut dire c'est les ambiances. À mon avis, c'est ce que tu veux dire. C'est l'ambiance dans le pays.
Mais justement, ça permet à d'autres pays de voir du sport, de voir une ambiance folle. Honnêtement, ça change quoi par rapport à l'ambiance sur le terrain, à ce qui va se passer, que ça se déroule dans différents pays. Honnêtement, c'est sur ce point, je comprends pas. Sur le point,
non, mais si moi je comprends,
je le comprends parce que forcément.
Non, mais sur l'unité, je comprends moi.
Regardez l'air du temps quand même. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'écologie. Alors on va pas faire les vierges effarouchées, mais on parle beaucoup d'écologie et on trouve. Et on voit, en tout cas, on peut s'apercevoir que la FIFA s'assoit sur tout ça. C'est-à-dire que ce soit l'écologie, que ce soit, des pays
on sait pourquoi,
plus fréquentables.
Pour des raisons financières.
Ça fait perdre de la magie à la Coupe du Monde. C'est ça l'idée. Oui, Pascal.
Jean-Christophe, si tu veux, aller dans le sens d'une écologie, tolérance zéro, mais on se déplace plus alors.
Non, mais pas,
Jeux Olympiques, fallait pas les faire.
Combien de personnes
ont pris l'avion, ont transité par les aéroports pour venir aux Jeux Olympiques?
Tu me parles
de l'empreinte carbone des Jeux Olympiques. Tu m'en parles pas, pourtant il y a une concentration humaine énorme qui est venue sur Paris. Donc si tu veux être tolérance zéro, eh bien on reste chacun chez soi.
Mais qui t'a parlé de tolérance zéro?
Avec toi c'est d'un extrême à l'autre. Tu penses d'un extrême à l'autre, Pascal.
Qu'est-ce que la FIFA fait de mal que d'organiser dans plusieurs pays majeure? Mais qu'est-ce qu'ils font de mal? Ce n'est à les capter parce qu'il faut des ressources pour organiser.
Pour payer les 4 millions et demi de salaire de Infantino et son appartement à 8 300 € de loyer payé tous les mois par la FIFA.
C'est l'argent. Ton seul argument, c'est l'argent que gagne des présupposés dirigeants.
C'est
ton
seul argument. Le bilan carbone aussi, mais toi,
Portugal, l'Espagne et le Maroc, vous trouvez que c'est très très loin?
Non,
Portugal, c'est à côté.
C'est à côté, c'est comme si c'était un pays. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, par exemple.
Non, mais moi, c'est des pays qui sont voisins. Mais regardez le dernier Euro qui s'est déroulé un peu dans tous les pays d'Europe. Moi, j'ai eu du mal à trouver un intérêt. J'ai eu du mal à trouver une ambiance parce que une compétition qui se déroule dans un pays, dans 3-4 villes ou 5 villes dans un pays, là, t'as vraiment un sentiment de fête. Là, si t'organises un match dans un pays, un autre match dans un... Tu vas un peu disséminer tout ça et t'auras pas la rencontre de tous les pays et de tous les citoyens du monde qui se rencontrent dans les
arbres. Mais justement, en le faisant dans plusieurs pays, tu permets à d'autres de voir. Et donc là, c'est vraiment tous les citoyens du monde qui peuvent s'en rentrer.
Le problème,
plus tu vas dans des pays, plus t'as possibilité de voir des supporters différents.
Moi, j'aimerais tordre le cou à Christophe. Si la prochaine Coupe du Monde n'avait été organisée que sur le territoire américain. Mais tu penses que cette magie, tu la trouves tellement le pays est vaste. Tu es bien obligé d'aller jouer aux quatre coins du pays. Que tu ajoutes le Canada ou le Mexique, qui sont des pays limitrophes, ça change rien.
Il est tellement vaste qu'on a été obligé de lui adjoindre deux autres pays pour faire encore et pour plaire encore plus à Pascal. Voilà.
En fait, tous les arguments que je peux avancer, mais tu vas me démonter.
Mais non, mais Pascal, on sait pourquoi un pays ne peut plus accueillir la Coupe du Monde
du Sud et tu fais une Coupe du Monde sur les Amériques.
Denis Charvet.
Non, mais on sait pourquoi un pays ne peut plus
accueillir une Coupe du Monde.
C'est un problème financier, ça coûte trop d'argent.
Trump, il n'a pas les sous pour faire une Coupe du Monde à lui tout seul.
Non, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, je pense qu'il va se mettre tout le pays à dos. Non, mais tu plaisantes ou quoi? Personne ne veut organiser la Coupe du Monde.
Ça, on entend bien que, et on l'a vu dans les derniers exemples, il n'y a que le Qatar, l'Arabie Saoudite qui peuvent s'offrir une Coupe du Monde.
Et la France qui rapporte sur les Jeux Olympiques, qui a 30 millions de bénéfices.
En fait, ce que vous semblez nier, mais à la rigueur, pourquoi pas. Et je pense que Christophe et comme moi, on a très envie de regarder toujours un match de Coupe du Monde. C'est que, à force, si personne ne dit rien, c'est-à-dire que si personne ne dit rien, on va disputer un jour une Coupe du Monde avec 64 pays, avec 80 pays, on va le faire dans le monde entier et ça n'aura plus aucun sens. C'est ça que l'on veut vous dire. Il y a malheureusement qu'une démarche de business derrière tout ça.
Oui, mais évidemment.
Franchement, c'est que pour ça.
Oui, mais depuis toujours. Pour faire vivre une Coupe du Monde, on est obligé de parler business.
S'il y a 48 pays, c'est uniquement pour que Gianni Infantino puisse être élu et puisse avoir à la botte les petits pays.
Vous voyez pas d'un bon œil que les Africains, par exemple, aient pour la prochaine Coupe du Monde, 10 pays potentiellement capables de disputer la Coupe du Monde plutôt que 6. Ils n'ont pas le droit d'être là. Mais il y en aura 10 à la prochaine Coupe du Monde qui seront pendant la.
Mais Pascal, il n'y a pas l'oseille.
À disputer la Coupe du Monde. Au lieu qu'ils soient 6, comme c'était le cas lors des dernières Coupes du Monde, ils seront 10 aux États-Unis.
Mais tu fais une meilleure répartition. C'est-à-dire que moi, s'il y en a moins en Europe et il y en a plus en Afrique, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu peux garder 32 pays en faisant une meilleure répartition.
Mais pourquoi y en aurait-il moins en Europe? Le foot, il se développe partout. Pourquoi? Les résultats le prouvent. Quand tu vois des petites nations qui, pendant ces éliminatoires, accrochent des grandes nations. C'est donc que le foot, il est compétitif partout. Pourquoi ne pas offrir la possibilité de rêver à une Coupe du Monde pour ces petits pays, en Europe comme partout dans le monde? Pourquoi?
Si on est jusqu'au boutiste, et je vais accueillir Laurent au 32-16 qui nous appelle, si on est jusqu'au boutiste, faisons une Coupe du Monde avec 100 pays ou avec 150 pays, 150. Et comme ça, tout le monde aura sa chance.
Si le tournoi des 6 au rugby, il passe à 7 ou à 8, tu le trouveras moins bon pour autant.
Mais tu me parles de 7 ou de 8, je te parle de 34.
Surtout
en rugby où
fermez-moi le micro, s'il vous plaît. Non, mais franchement.
Laurent nous appelle au 32-16.
Ce matin, Pascal.
Salut Laurent.
Oui, bonjour.
Bonjour Laurent, tu vas essayer de te frayer une petite place, t'en penses quoi?
Oui, je vais me la frayer la place, t'inquiète pas. Moi, j'ai 3 points à voir. 1, c'est quoi la charte éthique de la FIFA? La charte éthique de la FIFA, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une. 2, 48 clubs. Plus de matchs sans intérêt. Donc moi, je commençais à regarder la Coupe du Monde, effectivement, comme le dit Fred, à partir des 16e de finale. 3, je suis supporter de l'équipe de France. Comment je fais pour aller dans les stades à droite et à gauche? Quel budget il me faut en tant que spectateur et en tant qu'amour
supporter,
du foot? Supporter, comment je fais? Il faut être millionnaire pour aller voir les matchs.
Ça, c'est vrai.
Mais ça, c'est pas un argument, c'est pas vrai.
Si
la prochaine Coupe du Monde a lieu aux États-Unis, il te faudra te déplacer. C'est pas parce qu'il y a le Canada et le Mexique que ça va être plus cher pour toi.
C'est
pas un bon argument.
C'est plus cher. C'est dans les phases finales, il va falloir que je revienne en Espagne ou au Maroc.
Mais oui.
Donc déjà, quel est le bilan carbone? Aujourd'hui, les joueurs se plaignent des cadences infernales. Avec ce qui prévoit, on va être obligé de faire jouer les joueurs à droite, à gauche, avec les décalages horaires, etc. Donc on ne respecte pas le joueur.
Si,
on est bien d'accord avec ça.
Si, il respecte.
Le bilan carbone,
parce qu'il y a des contingents, il y a un groupe.
Laissez finir, Laurent.
C'est quoi le bilan carbone? Aujourd'hui, le bilan carbone, on n'en tient pas compte. Quand on donne la Coupe du Monde au Qatar, ils ont climatisé les stades pour pouvoir faire jouer les matchs. Est-ce que c'est normal aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Donc il y a plein
de problèmes. Mais Laurent, tu vas pas tout supprimer. Laurent, demande une question à Laurent.
Okay. Non, on n'a plus le temps pour poser de questions à Laurent. On pourra en reparler à 11h45 si vous voulez parler de ce sujet. La Coupe du Monde a-t-elle perdu de sa magie? On en reparle, les copains, avec les GG survitaminés. Vous
l'avez dit, Laurent, c'est sûr.
On se retrouve dans quelques instants pour parler de... S'il vous plaît, les copains, s'il vous plaît. Pas toute l'émission comme ça pendant 3 heures à chaque fois de reparler les uns sur les autres. France-Danemark, on en parle. C'est Luan dans quelques instants également. Alexis Pinturo, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, toujours avec Christophe Cessieux, Denis Charvet, Fred Weiss, Pascal Duprat. On vous parle de hand dans quelques instants et cette élimination de notre équipe de France féminine de hand. Mais tout de suite, direction Val d'Isère. Pour la première manche du slalom géant, on retrouve Léna Marjac et Sébastien Amier. Bastoun pour Alexis Pinturo qui va s'élancer dans cette première manche. Bonjour à tous les deux.
Salut JC, salut à tous. Et ça y est, Alexis Pinturo pour son 3e départ en Coupe du Monde cette saison après presque un an d'absence en raison d'une grave blessure au genou. Alexis Pinturo sous la neige de Val d'Isère, Bastoun. Conditions assez difficiles ce matin quand même.
Ah ouais, c'est une condition difficile, un petit peu mauvaise visibilité sur le haut. En tout cas, à partir du milieu du tracé, il y a les projecteurs qui donnent un peu de visibilité aux athlètes. Mais en tout cas, le revêtement est bon. Ça permet aux skieurs aussi de s'exprimer. On voit Alexis, voilà, qui comme il l'a annoncé les derniers jours, voilà, Val d'Isère, ce sera encore des marques. Je suis pas à 100%. J'essaye de skier du matériel un peu plus facile à faire tourner après son retour de blessure. Mais en tout cas, c'est du bon ski. 44 centièmes au deuxième intermédiaire. C'est dans le match.
Alexis Pinturo, donc, dans cette phase de Bellevard, d'une pente pure, brutale, très pentue. Et Alexis Pinturo, donc, avec 4 dixièmes de retard sur la tête de course. La tête de course, c'est Marco Odermatt, le Suisse. Et attention, maintenant, Bastoun, une seconde de retard sur cette fin de piste.
Ouais, une seconde, ça paraît beaucoup. Mais en tout cas, voilà, on le voit, du ski contrôlé, du ski aussi intelligent, ça passe par là, hein, avec Alexis, donc 1 seconde 27, 8ème place provisoire. Mais en tout cas, comme il le répète, l'entraînement, il travaille bien. Il a travaillé sur Courchevel les derniers jours où c'était très dur et éprouvant même pour son genou. On sait qu'ici c'est une piste aussi éprouvante, et il est placé, il sera là la deuxième manche, donc c'est aussi un point positif. Et on l'a vu lors de Beaver Creek du dernier géant, sur une deuxième manche, il est capable aussi de sortir du grand ski. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Et donc Alexis Pinturo, 8ème provisoire, à 1 seconde et demie presque de la tête de course. Et il y aura encore 6 Français à prendre le départ. Le prochain, ce sera Thibaut Favreau avec le Dossard 18.
Et on va suivre évidemment cette première manche avec vous. Merci beaucoup Léna Marjac et Sébastien Ami.
Le poteau qui va récupérer par Chloé Valentini qui manque. Non, Chloé, c'était le poteau de Léna Granvaux. Et attention, cette possession très importante. Ah, Tadou Sakho qui ne peut pas contrer là-dessus. Mie Højlund et le Danemark qui reprend 3 buts d'avance. 17-14, sauf que le chrono tourne. Oh, l'arrêt incroyable de Christensen. Le but danois. Oh, le lob inespéré de Mie Højlund. Elle lève les mains. 24-22, elle mange le chrono, il reste 5 secondes. La défaite de l'équipe de France en demi-finale du championnat d'Europe. Elles étaient invaincues jusqu'ici. Les mines sont fermées, les têtes sont très basses. 24-22 face au Danemark.
L'équipe de France de hand féminin ne disputera pas la finale de l'Euro. Les Bleus se sont inclinés, vous l'avez entendu hier soir, en demi-finale face au Danemark. Les joueurs de Sébastien Gardiou, jusqu'alors invaincus dans la compétition, disputeront la petite finale dimanche face à la Hongrie. Les Bleus ne vont pas réussir la passe de 3. 3 finales de suite après l'or au championnat du monde en 2023 et l'argent aux Jeux Olympiques en 2024. On retrouve notre envoyé spécial, notre commentateur Arnaud Valadon à Vienne en Autriche. Salut Arnaud.
Bonjour les GG.
Salut Arnaud.
Alors Arnaud, les filles sont-elles tombées de très haut hier soir ?
Oui, mais ce n'est pas non plus un choc, tant le Danemark est aussi une excellente équipe. 2 buts d'écart à une équipe de France qui n'a pas joué son meilleur handball, notamment en attaque avec des échecs au tir. La faute en partie, mais pas que, à la performance de la gardienne danoise Christensen, qui a réalisé 16 arrêts. La capitaine Estelle Zeminko à chaud avait du mal à cacher sa tristesse.
C'est toujours un moment très difficile, ce moment en particulier, de perdre une demi-finale, parce que ça fait 2 jours que tu y crois en fait. Et donc c'est toujours un peu violent. J'ai perdu plein de matchs, mais ce match-là, il laisse un peu un goût d'inachevé, parce que je trouve qu'on n'a pas montré notre meilleur visage. Donc c'est ça qui est dur.
Pour la gardienne Laura Gloser, ce n'est pas cette défaite qui doit rendre tout noir le bilan des handballeuses à l'Euro.
C'est comme ça, ça arrive, comme j'ai dit, on n'est pas invincible, faut vraiment tout le monde le comprenne. Ça fait des années qu'on performe, ça fait des années qu'on fait des demi-finales, et les demi-finales, c'est tellement charnière que parfois ça passe et parfois ça passe pas.
Les Bleus fâchés en quelque sorte avec l'Euro. Une seule victoire, c'était en 2018, et une seule finale en 2020. Comme il y a 2 ans, elles devront jouer un match pour la 3e place qu'elles avaient perdu à Ljubljana face à la Macédoine. Ce sera demain face à la Hongrie à 15h15 ici à Vienne.
Et merci beaucoup Arnaud Valadon, tu peux rester avec nous, on continue de parler de notre équipe de France de hand, une défaite donc en demi-finale. Fred, est-ce qu'on peut parler d'euro réussi tout de même quand on va jusqu'en demi-finale ou non? Cette équipe de France nous avait habitué clairement à mieux, surtout quand on sort d'une finale des Jeux Olympiques.
Non, je crois qu'on a le résumé, Arnaud Valadon nous a expliqué, ça ne réussit pas très bien l'euro en général déjà, donc on n'est pas vraiment habitué à faire des finales, donc ça veut dire que concrètement être dans le dernier carré, c'est quelque chose d'important déjà, premièrement. Ensuite, un nouveau coach avec Gardiou qui arrive, même s'il est dans la continuité un petit peu, il a changé un petit peu le style de jeu de cette équipe. Offensivement, c'est un peu différent. Et on l'a senti un petit peu frileux parfois tactiquement, parce qu'il sort la 2-4 assez tardivement, alors qu'elle a posé quand même des problèmes à cette équipe du Danemark. Et de l'autre côté, on a vu une équipe qui a tout tenté, qui a joué son va-tout, qui a sorti son goal souvent, qui a joué à 7 en attaque très souvent aussi. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un coach qui était expérimenté, qui est là depuis 2020, de l'autre côté, du côté du Danemark, et qui a mis des choses en place pour nous battre. On perd que de 2 buts, la gardienne du Danemark a été fantastique, donc il y a plein de conditions qui font qu'on n'a pas été à notre niveau, ils ont réussi à réduire. Mais on fait quand même une super compétition. Offensivement, c'est super intéressant. On peut courir, on peut faire des choses intéressantes. Et surtout, on a encore une médaille à aller chercher. Et ça serait merveilleux.
Mais désormais, quand on s'appelle l'équipe de France, est-ce que, et c'est là toute la question, est-ce qu'on peut se contenter d'une demi-finale? Et Pascal, j'imagine que tu as bien entendu ce qu'a dit Fred. Il parle de l'entraîneur et du sélectionneur. Voilà, c'est la faute du sélectionneur.
Parce que Fred n'a pas encore été entraîneur. Peut-être qu'il le saura un jour. Il en a les capacités. Toujours est-il que les arguments qu'il avance sont de bons arguments. Moi, c'est un peu un petit non. Je suis déçu parce que les standards de cette équipe de France de handball féminin, c'est d'être tout le temps, en tout cas sur, je crois, les 6 derniers tournois, 5 fois, elle atteint les finales.
Mais
donc, cette
équipe-là,
laissez-moi terminer. Oui, c'est très compliqué. Toutes les compétitions internationales sont compliquées.
Dans le foot, l'Euro,
cela dit, moi, ce qui m'a, par rapport à ce qu'elles ont donné en phase de poule, le match d'hier me déçoit parce qu'il est pas, les filles sont pas à leur niveau, parce qu'offensivement certes la gardienne a fait des arrêts, mais parce que beaucoup des shoots ont été des shoots forcés, elles n'ont jamais déstabilisé l'équipe danoise, et dès les premières minutes devant mon écran, je craignais que l'équipe de France soit éliminée, parce que j'ai retrouvé
même au début de la deuxième mi-temps
leur vitesse, en début de deuxième mi-temps elles ont la possibilité de faire 14 à un moment, si je ne me trompe pas.
Oui,
ça a été très tenu, les moments dans la partie où tu sens l'équipe de France à son niveau. Voilà. Et c'est pour cette raison, je me dis que, je suis déçu parce que elles sont dans la lignée de ce qu'elles ont fait lors des dernières compétitions, mais, somme toute, elles n'iront pas en finale.
Ouais, mais d'accord.
Pascal,
mais
tu as raison parce que tu parles du jeu forcé, effectivement, en attaque, mais quand on a eu des situations très ouvertes avec des tirs, avec des pourcentages de réussite très élevés.
Manque d'adresse.
Je pense aux ailières Chloé Valentini, qui est une des meilleures ailières du monde, qui a 1 sur 3, et où Lucie Granier a 2 sur 5 avec énormément d'échecs à l'aile, alors que c'est censé être les tirs où tu marques le plus facilement. Oui. Et aussi la capitaine Esten Zeminko, qui physiquement est un peu dans le dur. Elle avait été diminuée par un virus en début de compétition. Ça semblait aller mieux. Elle est à 1 sur 5 et tu as quand même une faillite des cadres en attaque, et notamment sur ces échecs au tir, qui est très prégnante et qui explique en grande partie pourquoi on a mis que 22 buts, ce qui est quand même assez faible.
Denis, vas-y.
Non, moi je pense que je vous trouve un peu trop critique, parce que d'abord l'euro, c'est comme en foot, l'euro de foot est plus dur que parfois que la Coupe du Monde, on le sait, Pascal. Et là, c'est un peu pareil. Je veux dire, tu affrontes le Danemark, une des meilleures équipes au monde, qui risque d'être champion d'Europe. Je veux dire, c'est pas rien. Comme tu me dis, les ailières ne vont pas passer. T'as quand même une défense qui est redoutable en face.
Ah oui, c'était très fort.
Je veux dire, c'est très fort. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Tu peux pas non plus dire l'équipe de France a été faible. Je pense pas que c'est l'équipe de France qui a été faible. Je pense que le Danemark est très fort.
Donc on peut parler.
Juste pour finir, le discours, un discours que d'entraîneur qui change. Mais pour moi, c'est faut être un peu tolérant et dire ça va prendre du temps.
Ok. Prendre la suite de Olivier Crumble, c'est pas évident, Christophe.
C'est assez injuste avec les handballeurs et les handballeuses. C'est que, à la différence de quasiment tous les autres sports, se faire battre en demi-finale, c'est une déception. Parce que pour moi, c'est une déception de les voir éliminés. Tout le monde les voyait déjà en finale face à la Norvège, la revanche des derniers Jeux Olympiques, et malheureusement, elles perdent un tour avant, donc en demi-finale. La Norvège, on sait que c'était les maîtresses du hand mondial. Perdre contre elles en finale, c'était pas une honte. D'ailleurs, ça avait été le cas au jeu. Mais là, perdre en demi-finale contre les Danoises, qui sont un cran en dessous, je trouve que c'est une régression, une toute petite régression de la part de l'équipe de France. Alors, le tournoi n'est pas terminé, elles peuvent aller chercher une médaille de bronze, elles ont intérêt à le faire, parce qu'autrement, on va parler de crise, parce que quand tu ne ramènes pas de médaille, que tu es une équipe de France de hand, on peut parler de crise. Juste un petit mot, c'est que elles ont passé cette compétition sans avoir le moindre souci. Elles sont arrivées en demi-finale invaincues, sans mettre vraiment les mains dans le cambouis, ou presque pas. Et je trouve que ça ne les a pas préparées, justement, parce que en hand féminin, il y a 4 équipes, en gros. Il y a 4 équipes qui sont vraiment au-dessus de l'eau. Et ben, quand tu peux pas te préparer face à l'une de ces 4 et que tu arrives en demi-finale en pensant que tout est fait parce que t'as écrasé la concurrence, tu te retrouves bien embêté.
Le bec dans l'eau, c'est à 15h15, la petite finale. France-Hongrie, ce sera évidemment à suivre sur RMC avec Arnaud Valadon. C'est demain cette rencontre, c'est donc dimanche à 15h15. France-Hongrie, merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Allez, c'est le jeu de Noël.
Le grand
grand Noël RMC.
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en envoyant Noël au 732-16 avec beaucoup de cadeaux à gagner. 10 000 euros, une PS5 Pro, un iPhone 16. Bref, quelques cadeaux à mettre sous le sapin. Noël au 732-16. Vous venez jouer en direct avec nous. Ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Mais vraiment, jouez, vous n'allez pas le regretter. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite des grandes gueules du sport. On va parler d'Oscar Jégou et Hugo Oradou. Avez-vous envie de les revoir avec le 15 de France? À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.